chapitre 4, et on va lire ensemble un seul verset, le verset 6, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Et le sixième chapitre de Matthieu, Matthieu 6, on va lire un texte qui est bien connu, dès le verset 25, Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, et c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Gloire à Dieu. Vous l'avez compris, le sujet qui sera abordé ce matin, ce n'est pas un sujet mineur, puisque Jésus lui-même a pris le temps et le soin de l'aborder avec beaucoup de précision, d'insistance. Les apôtres, dans les épîtres, nous le constatons, les apôtres l'ont abordé bien souvent, bien souvent. C'est le sujet de la bonne gestion de nos inquiétudes, de nos inquiétudes. J'aimerais ce matin, eh bien, voir avec vous quelques recommandations du Seigneur pour nous rendre vainqueurs de nos inquiétudes. Je ne sais pas si vous êtes présentement dans une phase d'inquiétude, mais ce que je sais, c'est que l'inquiétude est un mal universel et intergénérationnel. Les jeunes s'inquiètent, les adultes s'inquiètent, les vieillards s'inquiètent. L'inquiétude, ce n'est pas un problème culturel, ce n'est pas un problème racial, c'est quelque chose qui est collé à la nature de l'homme. L'inquiétude, c'est quelque chose qui nous concerne tous, et j'aimerais voir trois raisons principales pour lesquelles Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien ». Il y a trois raisons. Lui qui connaît d'une connaissance parfaite sait très bien les conséquences nuisibles et handicapantes que l'inquiétude communiquera inévitablement à l'être humain. et en particulier à ses disciples que nous sommes. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc point. Et il insiste, et il y a trois raisons, je le disais, pour lesquelles nous devons être vigilants à l'égard de l'inquiétude. Je vous les mentionne. Première raison, c'est que s'inquiéter ne règle rien. Deuxième raison, c'est que s'inquiéter nous détourne de l'essentiel. Troisième raison, et on va y revenir bien sûr en détail, c'est que s'inquiéter, c'est se positionner comme si l'on était païen. Ce sont les païens qui, par définition, s'inquiètent. Et j'aimerais, frères et sœurs, développer chacune de ces raisons quelque peu. Premièrement, s'inquiéter ne sert à rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inutilité de l'inquiétude. Il y a des sociologues qui ont fait des statistiques et qui ont mené des enquêtes dans ce domaine. Et ils se sont aperçus, c'est des pourcentages officiels, hein, que dans 40% des cas, on s'inquiète de choses qui n'arriveront jamais. C'est ballot, hein? 40% des cas, presque la moitié. Dans 30% des cas, on s'inquiète de choses qui sont déjà passées et sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Le problème, il s'est produit. On s'inquiète à contre-temps. Dans 12% des cas, on s'inquiète de ce que les autres peuvent penser de nous. Alors que le Seigneur vraiment nous libère de ça. Hein. Et que l'image que les autres auront de notre personne n'influe pas sur notre bien-être, notre naturel, notre épanouissement. Dans 10% des cas, on s'inquiète pour des raisons de santé. Dans 8% des cas, seulement, nos inquiétudes deviennent vraiment un problème réel. Conclusion, dans 92% des cas, on s'est inquiété pour rien. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que déjà, au commencement de ce message, accepte cette vérité factuelle, c'est que tes inquiétudes ne serviront à rien. Tes inquiétudes ne régleront rien et n'apporteront aucun bénéfice. L'inutilité de tes inquiétudes, c'est la première raison pour laquelle, eh bien, tu dois t'en garder. Dans l'évangile de Luc, on découvre une deuxième raison au chapitre 10, un texte vraiment bouleversant et très très connu. Dans Luc, le chapitre 10, le verset 38, nous lisons « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » La deuxième raison, je vous la résumais tout à l'heure en introduction, c'est que nos inquiétudes nous détournent de l'essentiel. Quel honneur pour cette famille, Marthe, Marie, Lazare, quel honneur d'accueillir Jésus. Et bien entendu, on peut comprendre l'énergie que Marthe a déployée pour honorer Jésus. Elle allait, elle venait, elle était en activité perpétuelle et elle voulait certainement procurer du plaisir à cet invité de marque. Et bien sûr, d'un regard biaisé, elle a remarqué que sa sœur, elle, dans une passivité qu'elle ne comprenait pas, s'était installée au pied de Jésus, qui était en train d'enseigner des choses si précieuses. Elle écoutait la parole du Seigneur. Et vous imaginez aisément, si on devait radiographier l'âme de Marthe, eh bien, il y aurait, vous voyez, une masse rouge de charge radioactive là, qu'on verrait monter jusqu'à ce que, à un moment donné, elle va même se permettre de faire un reproche au Seigneur. Mais tu ne dis rien. Mais dis-lui donc de se bouger un peu, hein, et de m'aider. Et c'est là que le Seigneur Jésus saisit l'occasion pour apporter un enseignement fondamental. Fondamental. Qui va bousculer Marthe. Jésus va dire, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Et j'ai envie de répercuter cet enseignement à notre quotidien d'hommes et de femmes qui s'affairent, qui s'agitent. On voit défiler les semaines, les mois, et pour celui qui vous parle, les années, mais on est tous sujets au même phénomène. On ne voit pas le temps passer parce qu'on est en perpétuel mouvement, en perpétuelle activité. C'est incroyable. D'un côté, la technologie nous permet de gagner un temps impressionnant et on n'a jamais été aujourd'hui en déficit de temps comme jamais. L'homme dit, je n'ai pas eu le temps, et pourtant, avec les moyens modernes, on gagne du temps, mais on en manque toujours. C'est la course en avant, perpétuelle, et les inquiétudes ont cet effet de nous faire passer à côté de la seule chose qui est nécessaire. Amen. Une seule chose est nécessaire. Prendre du temps pour s'asseoir aux pieds de Jésus, ce n'est pas perdre son temps, c'est en gagner. Une seule chose est nécessaire. Et j'aimerais adresser ce message à un frère, à une sœur, à un ami parmi nous qui est pris dans l'engrenage, la machine infernale des activités et des agendas surchargés, des obligations, des affaires à régler. Et cette course perpétuelle, il est indispensable qu'à un moment donné, tu presses sur le bouton arrêt. Dans le psaume 46, le verset 11, Dieu dit « Arrêtez !» Et sachez que je suis Dieu. Amen. Les inquiétudes sont comparables à une machine qui va nous happer, qui va ponctionner nos énergies et nous faire passer à côté de l'essentiel. Dieu me donne rendez-vous à ses pieds, afin que je lui permette de me parler. Dieu veut te parler ce matin. Amen. Que c'est bon, que ce grand Dieu que l'univers ne peut contenir prenne le temps et prenne soin de me donner un rendez-vous personnel pour me parler. Jésus un jour se tournera vers Simon le pharisien et il lui dira « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Ce matin, le Seigneur Jésus a quelque chose à te dire. Mais mes amis, ce que le Seigneur a à nous dire peut être comme la clé qui va nous ouvrir la porte de la victoire. Alléluia! Ce que Dieu a à nous dire, c'est pas que des mots et du son, c'est des paroles créatrices, des paroles bénissantes. Ce que le Seigneur a à me dire va me procurer un bien intérieur irremplaçable. Alléluia. Et il est bon et il est essentiel. Une seule chose est nécessaire, c'est de prendre quotidiennement le temps de s'asseoir au pied du Seigneur Jésus. Ça n'était pas de la paresse, ça n'était pas de la rêverie de la part de Marie. Elle a choisi. Et elle a choisi parce que elle a compris les réalités spirituelles. Elle aurait pu, on peut imaginer, qu'elle a eu même un temps où elle a été tiraillée. Que faire ? Aider ma sœur ou m'asseoir au pied de Jésus ? Il a pu se produire en elle un tiraillement, une réflexion intérieure. Et puis à un moment donné, elle a choisi. Elle aurait pu faire autre chose, mais elle a choisi. Et ceci nous parle de notre responsabilité personnelle. Amen. Moi, je prie pour que vous et moi, nous ayons quotidiennement cette sagesse éclairée par le Seigneur pour choisir la chose essentielle. Mes moments de cœur à cœur avec Christ sont d'un prix irremplaçable. Et je veux veiller à ne permettre à aucun facteur de violer ces moments. Entre dans ta chambre, ferme la porte, déconnecte-toi de la Wi-Fi et mets tout ça en mode silence et permets au Seigneur de parler à ton cœur. Seigneur, ce matin, visite-nous et parle à un cœur en particulier. Gloire à Dieu. Éclaire l'intelligence. Convainc, persuade, encourage. Révèle ta parole. Gloire à Dieu. Je veux repartir de ce culte avec quelque chose de plus que l'Esprit de Dieu aura déposé dans mon cœur. Alléluia. Les inquiétudes nous détourneraient de la seule chose essentielle. Et puis le troisième raison pour laquelle on doit se garder de l'inquiétude, je le disais, c'est le Seigneur qui enseigne cela. Toutes ces choses, va dire Jésus, eh bien ce sont les païens qui les recherchent. Ça nous place donc en situation similaire à celle des païens. Or, le païen dans le langage de Jésus, le païen, c'est tout simplement la personne qui ne connaît pas le Seigneur. Vous voyez, il y a des païens pleins de qualités. Il y a des païens. Quelquefois, il y a des païens qui ont plus de qualités sur le plan humain que certains chrétiens. Il y a des païens généreux, il y a des païens souriants. Il y a des païens qui ont un potentiel intellectuel remarquable. Il y a des païens qui réussissent des projets impressionnants. Il y a des païens qui sont altruistes, philanthropes, qui aiment les causes humanitaires. J'allais dire, il y a des bons païens. Il y a des païens, je veux dire, qui, sur un plan humain, parfois, pourraient nous être donnés en exemple, n'est-ce pas ? Le seul élément caractérisant un païen, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne l'a pas rencontré. Il n'a pas compris que Dieu a envoyé un sauveur pour sauver l'humanité. Il ne sait pas ces choses, il les ignore. Et alors, c'est l'apôtre Paul qui, en écrivant aux Éphésiens, va fort bien définir la situation d'un païen. Sans Dieu, sans espérance, sans Christ et sans droit de cité. Donc, voilà, le païen, ce qui le caractérise, c'est qu'il ne connaît pas ce Dieu merveilleux. Il ne peut s'appuyer que sur ses propres ressources, son courage, sa capacité d'analyse, sa capacité de résister, ses ressources. Mais bien vite, eh bien, on s'aperçoit que nos capacités humaines, elles ont leurs limites. Alors, Jésus montre que, eh bien, le païen, il y a un moment, il va s'inquiéter. Oui, il va s'inquiéter. Ce sont les païens qui s'inquiètent. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas les promesses de Dieu, ceux qui ne connaissent pas la grâce du Seigneur. On va y revenir tout à l'heure. Alors eux, eh bien, ils s'inquiètent et on peut dire qu'ils ont de réelles raisons de s'inquiéter parce que construire sa vie sans Dieu, c'est inquiétant. C'est inquiétant. S'il y avait un jeune parmi nous qui serait dans ce dilemme de construire sa vie, son avenir, je t'en supplie de tout mon cœur, envisage cette construction avec Dieu, avec son aide et avec l'éclairage de sa sagesse. Sinon, je ressemblerai à ce bâtisseur qui a bâti sa maison sur du sable. Il a fait beaucoup plus vite que l'autre, qui a pris le temps de creuser jusqu'à toucher le roc. Hein. Et pendant un premier temps, les deux maisons achevées, tout allait bien, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la météo change et que les inondations s'abattent sur les deux maisons. Celle sur le sable a été ruinée, celle sur le roc est restée debout. Et la volonté de Dieu, c'est que tu restes debout. C'est que ta vie brave toutes les intempéries. C'est que ton foyer, ton couple, ta famille, ta foi, ton espérance ressortent toujours vainqueurs de toutes les difficultés de l'existence. C'est le païen, lui, a de bonnes raisons de s'inquiéter. Mais Jésus va dire, vous, il en est différemment. Et je disais qu'à un moment donné, eh bien, il fallait stopper cet engrenage, il fallait appuyer sur le bouton arrêt d'urgence, arrêter, et sachez eh bien, que je suis Dieu. Et on doit dire non à l'inquiétude, et on doit dire oui à la foi en notre Dieu. J'aimerais terminer ce message, frères et sœurs, en donnant quelques enseignements pour répondre à une question que peut-être certains se posent. J'aimerais m'en sortir de mes inquiétudes. J'aimerais les refouler bien loin derrière moi. Mais elles me poursuivent dans mon sommeil. Elles me privent d'appétit. Et elles troublent ma paix. Elles ont volé ma joie. Eh oui. Eh bien, le Seigneur nous donne ses conseils pour nous permettre de nous sortir de l'emprise des inquiétudes et pour entrer dans une marche victorieuse, celle de la foi. Vous le savez, hein, le juste vivra par la foi. Amen. C'est l'antidote aux inquiétudes, la foi, la foi. Et je voudrais vous donner 4 étapes qu'il faut actionner les unes après les autres, qui sont reliées les unes aux autres. C'est le processus de la foi qui se met en mouvement. 1. Bannir l'inquiétude. 2. Rappeler les promesses de Dieu. 3. Recourir à la prière. 4. Terminer par des actions de grâce. Amen. Je voudrais revenir sur ces 4 points. Vous voyez, vous avez un tableau de bord avec 4 boutons qu'il faut actionner là. D'accord ? Ce matin, actionne ces boutons. Et tu vas expérimenter quelle puissance secourable contient la foi dans le Dieu de notre espérance. Ésaïe, chapitre 54 et le verset 14. Ésaïe 54, 14 nous dit ceci. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas, que le Seigneur soit béni. Elle n'approchera pas de toi. Amen. Première réaction, bannir l'inquiétude. C'est un mot très fort. C'est une attitude qui est en train de délimiter une frontière. Et je suis en train de dire à mes inquiétudes, ici, là, ici, c'est un espace que tu n'as pas le droit d'investir. Entrée interdite. Et ton cœur, mon frère, ma sœur, avec les pensées qui s'y expriment, doit être un espace délimité, un espace dédié qui appartient au Seigneur. Amen. Ton espace personnel doit être protégé par cette position de la foi qui interdit à l'inquiétude de s'infiltrer dans ton privé. Dans ton privé. Bannir l'inquiétude, c'est prendre autorité. Bannir l'inquiétude, c'est faire valoir un droit. Bannir l'inquiétude, c'est agir en être responsable. Dieu ne fera pas disparaître les facteurs d'inquiétude, mais il fortifiera ta foi pour que tu te rendes inviolable et inaccessible à l'inquiétude. Ça ne veut pas dire que nous cessons d'être des gens réalistes. Nous sommes dans la réalité quotidienne. Bannir l'inquiétude, c'est pas faire le déni des problèmes. Quelquefois, on nous dit, mais vous, alors les chrétiens, alors vous n'avez plus de problème. Eh bien, si, il n'y a que à Aubagne qu'ils n'ont pas de problème, les chrétiens. Hein ? Nous avons des problèmes. Il ne s'agit pas de faire un déni, ce n'est pas de faire l'autruche qui plante sa tête dans le sable et qui dit, c'est bon, ici, il n'y a pas de danger. Non, mais par l'autorité que me procure mon statut d'enfant de Dieu, alors je bannis l'inquiétude. Et si ce matin tu prenais autorité, non pas en ton nom à toi, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appartenant au Seigneur de gloire. Amen. Et si toi-même tu prenais autorité en confessant de ta bouche que ta vie est un espace privé, entrée interdite. Un jour, je me baladais, j'étais un peu en avance à un rendez-vous, et je me baladais, je me promenais, il faisait beau, et je suis entré dans un parking comme ça, et j'avais pas vu le panneau propriété privée. J'avais pas vu. Et il y a un automobiliste qui était sur le parking qui m'a dit, monsieur, c'est une propriété privée. Ah, excusez-moi, je suis sorti. Hein. Ta vie est une propriété privée et l'inquiétude n'y a pas droit de séjour. Le deuxième point qu'il faut actionné, c'est Ésaïe 41 qui nous le révèle. Ésaïe 41 et le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ô Seigneur, fais-le ce matin. Amen. Ô, déploie ta droite triomphante ce matin, Seigneur. Et ici, il y a donc les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Deuxième étape, rappelle à ton cœur les promesses du Seigneur. Amen. Ce qui affaiblira le chrétien, c'est d'être frappé d'Alzheimer vis-à-vis des promesses de Dieu. C'est de perdre de mémoire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Et vous le savez, il y a des récits très forts dans l'Ancien Testament, en particulier avec le Abraham, etc., où Dieu a cru utile de rappeler sa promesse, Le rappel des promesses de Dieu fait partie de la démarche de la foi. Certains sont en quête d'innovation, mais le chrétien, lui, il ne cherche pas l'innovation, il cherche à rappeler à sa foi les promesses de Dieu. Et si tu as permis par manque de réactivité peut-être, ou par une surabondance d'activité, si tu as permis à l'adversaire, eh bien, de noyer les promesses de Dieu dans un fratras de soucis, eh bien, ce matin, rappelle à ton cœur les promesses du Père Céleste, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui sont rappelées ici au peuple déstabilisé. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, que le Seigneur le fasse. Amen. Qu'il te visite ce matin et qu'il nous visite et que de sa droite triomphante, il nous accorde le secours dont nous avons besoin. Repars de ce lieu dégagé et libre de l'emprise effrayante que les inquiétudes voudraient exercer sur ton âme. Le troisième levier, alors c'est dans l'Épître aux Philippiens, nous l'avons lu en introduction, que nous le trouvons, un texte d'une richesse merveilleuse. Ne vous inquiétez de rien, mais la phrase ne s'arrête pas là, il y a une suite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. La prière. Amen. La prière. Mais vous savez, il y a prière et prière. Tout à l'heure, je vous parlais de la position du païen. Nous sommes quand même surpris d'apprendre par la bouche de Jésus que les païens prient. Hein, ne faites pas comme les païens qui prient, hein, et qui a force de parole, etc. Donc, voyez comme quoi les païens, ce n'est pas forcément des êtres hideux, ils ont même des élans de spiritualité, voyez, pas éclairés, mais ils ont, et eux, ils s'imaginent, voyez, c'est l'imagination, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la foi, l'imagination, c'est autre chose. Ils s'imaginent qu'en multipliant les paroles, ben, ils vont obtenir quelque chose. Hein. Voilà. Mais il ne s'agit pas de cette forme de prière. Il ne s'agit pas non plus de la prière religieuse, avec des phrases toutes faites, froides, insipides. Il ne s'agit pas non plus de la prière qui est, entre guillemets, un défouloir de découragement, la prière plaintive, la prière où rien ne va, quoi. Quand vous avez entendu de telles prières, vous avez le moral dans les chaussettes, quoi. Hein, c'est pas. Non, non, non. Quand Jésus parle de la prière, quand la Bible enseigne la prière, il s'agit toujours de la prière de la foi. Elle a une valeur et elle contient des facultés incomparables. La prière de la foi, ce n'est pas sa longueur qui en fait l'efficacité. Ce n'est pas sa tournure littéraire ou poétique, ce n'est pas ça du tout. C'est la prière de la foi. Des exemples nombreux sont fournis dans les Écritures. Regardez, les prophètes de Baal et d'Astarté ont passé toute une journée à adresser leurs incantations, rien. Puis il y a un homme, Élie, qui fait une prière, mais courte et simple, éternelle, ben, qu'on sache aujourd'hui. Voilà. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi, qu'on le sache. Il avait à peine fini cette brève prière. Elle est presque décevante, cette prière, dans sa formulation. Mais elle n'est pas décevante dans son exaucement, hein. Parce que Dieu a envoyé le feu sur l'Holocauste et tout le peuple a dit « Mais c'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu !» Voilà la prière pure, pleine de foi, la prière qui ne vacille pas, la prière où il n'y a pas de « si », de « mais », de conditionnel, mais la prière simple, établi sur la parole et qui, tout simplement, confesse qu'à notre Dieu, tout est possible. Et dans l'épreuve que tu essayes de gérer, rappelle-toi surtout qu'à ton Dieu, tout est possible. Et étant établi sur cette immuable réalité, prie la prière de la foi. Tu verras des brèches dans l'impasse. Tu verras une transformation géologique et topographique. Il y a des montagnes qui vont disparaître. Tu verras des changements brusques dans la situation qui est la tienne. Brusquement, des choses que même l'imagination la plus fertile ne pouvait concevoir, Dieu les accomplit, que le Seigneur soit béni. Quand c'est Dieu qui se lève au milieu de tes problèmes, alors prépare-toi à vivre de grandes choses. Tu as des raisons de bannir la crainte, de rappeler ses promesses et sur ses promesses d'invoquer le Seigneur. Ah, quelle puissance il y a dans la prière de la foi qui s'appuie sur le « tout est accompli » de Jésus. Amen. Les éléments se soumettent, les ténèbres sont mises en déroute et l'impossible devient possible. Attendons-nous à l'impossible qui va devenir possible. Gloire à Dieu. Et pourquoi pas dans les prochains dimanches, pourquoi on n'écouterait pas des beaux témoignages? Amen. Pas de 1800 et quelques, hein, mais... non, mais des témoignages récents de bien-aimés de notre Église qui vont pouvoir dire « C'est merveilleux, frères et sœurs, c'est merveilleux. Voici quelle était ma problématique. J'ai tout essayé, j'ai considéré sous tous les angles ma situation. J'étais désespéré. Alors j'ai prié et voici ce qui s'est produit. » Amen. Nous sommes appelés à vivre le miracle de Dieu. Hein. Ça, c'est la prière. On a besoin d'actionner cette autorité qui bannit l'inquiétude. Le rappel des promesses de Dieu et la prière de la foi. Et on termine avec des actions de grâce. Amen. Avec des actions de grâce. Quand j'étais petit, que ma maman nous servait un repas que je n'aimais pas, souvent c'était des légumes, je n'aimais pas les légumes, mais je savais qu'elle avait préparé un bon dessert arménien. Alors, qu'est-ce que je faisais, moi? J'avalais vite mes épinards. Et j'avais hâte d'arriver au dessert. Et là, mes amis, je prenais le temps. Je savourais, je dégustais. Ah, c'était un ravissement. Eh bien ici, si vous permettez la comparaison, c'est le dessert. Après les combats, après l'état de siège, des inquiétudes sur mon âme, après cette démarche volontaire d'exercer l'autorité spirituelle, de prier, de rappeler les promesses de Dieu, l'apôtre Paul dit, n'oubliez pas les actions de grâce. Moi, je dis qu'un chrétien qui vit dans l'action de grâce, forcément, il a sur lui un rayonnement particulier. Ça ne veut pas dire qu'il est dispensé de lutte, il a ses luttes, mais il entretient intérieurement une vie intense d'action de grâce qu'il fait monter jusqu'à son Dieu. L'action de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? Bien évidemment, dans l'expression, il y a le mot grâce. Ça, c'est évident, la grâce. Parce que toutes les bénédictions, tous les exaucements, les miracles les plus retentissants que Dieu me permettra de vivre, tout cela ne sera toujours que le résultat de la grâce. C'est par grâce. Amen. C'est par grâce. Quelqu'un a dit, le mérite réclame son dû, mais la grâce, elle se reçoit. Sans mérite. Elle s'accepte. Et j'ai tellement conscience ce matin que si je suis là devant vous, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Charis. En grec, le don gratuit, c'est le don gratuit. Que Dieu me bénisse ne fait pas de moi un médaillé, mais tout simplement un bénéficiaire émerveillé de l'amour de Dieu. Je suis émerveillé de l'amour de Dieu. Un jour, un pasteur nous a ouvert un peu son cœur et il nous a dit, oh, il y a un culte dernièrement où... J'ai vu l'église remplie de monde et la présence de Dieu. Et c'était tellement bouleversant, nous a-t-il dit. Je me suis caché derrière la tenture. Ils avaient mis une grosse tenture là, au fond de l'estrade. Et derrière ma tenture, j'ai pleuré d'émerveillement. Je dis, Seigneur, qui je suis pour que tu nous bénisses de la sorte, conscient que tout est par grâce. Tout est par grâce. Gloire à Dieu, hein. Amen. Et plus nous prenons de l'âge, mes bien-aimés, et plus nous devons apprécier à sa juste valeur la grâce que Dieu nous fait. L'apôtre Paul, à un épisode de son apostolat, se présente et il dit, voilà, je suis le moindre des apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. Mais je suis apôtre quand même. Le moindre, mais apôtre. Il rappelle l'apostolat. Et puis l'apôtre Paul chemine avec le Seigneur. Et quelque temps plus tard, il se présente différemment. Et il dit, je suis le plus petit des chrétiens. Il ne parle plus d'apôtre. Mais il se présente comme un enfant de Dieu, un racheté. Et encore, le plus petit des rachetés. Intérieurement, il y a eu évolution. Hein. Et puis, il chemine encore, il arrive à un âge avancé, il est près de la fin de sa course, et il se présente encore. Il se présente, et il dit, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier des pécheurs. Il y a eu une évolution. Vous savez, on peut avoir dans la bouche le mot grâce. Mais on est appelé à être imprégné de ce mystère qui doit nous bouleverser. Et vous savez, plus on évalue la grâce de Dieu, et plus il y a de l'action de grâce. Amen. Plus tu vas être émerveillé par la grâce que Dieu te fait, et plus tu vas lui rendre grâce. prier, parfois supplier, sans oublier les actions de grâce. Moi, je prie pour que dimanche prochain, on puisse tous ouvrir la bouche pour lui rendre grâce. Il y a eu 3 amens, il y aura au moins 3 chrétiens qui loueront le Seigneur dimanche prochain. Bon, ce ne sera pas le silence total. Non, j'aimerais avoir ce problème. J'aimerais avoir ce problème prochainement. De vous dire stop, 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 arrêtez, c'est 14 heures. Arrêtez de louer. J'aimerais avoir ce problème. Parce qu'on l'a chanté tout à l'heure. L'agneau est digne. Oui ou non? L'agneau est digne. Mes bien-aimés, loin de moi de culpabiliser qui que ce soit, je me mets à la première place. Je me mets vraiment, je me prêche. Je me prêche parce que je l'ai expérimenté un dimanche matin dans mon église d'origine. J'avais vraiment pas le moral et j'avais pas le cœur à louer Dieu. Et j'étais au culte, comme c'était moi le chauffeur de la famille, si j'y allais pas, je privais toute ma famille. Donc j'y suis allé quand même, mais j'avais pas le cœur à louer. Et vous savez, à un moment donné, j'étais là. Et une pensée très forte m'est venue, le Seigneur attend ta louange. Pourtant, je n'étais pas en état. Hein. Mais cette pensée que je ne prévoyais pas du tout, elle est venue d'en haut. Elle m'a libéré de l'étau de tristesse qui enserrait mon âme. Et je me suis levé et j'ai béni le Seigneur. Ton Dieu est digne que tu le loues. Faites-moi un gros quelque chose là. Un gros amen, alléluia. Ton Dieu est digne d'être loué, alléluia. Et il est digne que tu te joignes à la grande chorale des adorateurs pour faire entendre les actions de grâce. Les actions de grâce qui interviennent bien sûr après l'exaucement, mais aussi les actions de grâce qui précèdent l'exaucement. Parce que Jésus... au tombeau de Lazare, a dit « Père, je te rends grâce !» Mais Lazare était encore mort. Et déjà, Jésus rend des grâces au Père. « Je te rends grâce !» Et il y a eu cette parole « Lazare sort !» Et Douglas Scott disait « Heureusement que Jésus a dit « Lazare sort !» parce que s'il avait dit simplement « Sort !» tous les morts seraient sortis. Hein. Donc il précise, hein, c'est Lazare hein, qui est concerné. Et il y a eu la résurrection, n'est-ce pas? Rendre grâce, c'est faire écho à la grâce dont nous sommes les bénéficiaires. Toi et moi, nous sommes chaque instant, de chaque jour, mille fois, les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et ça doit toujours nous garder intérieurement, voyez, émus, émerveillés, remplis de sentiments que les mots humains ne peuvent pas exprimer. Alors il y a aussi le parler en langue, l'onction du Saint-Esprit, et nous parlons en langue et nous disons les merveilles de Dieu en langue, gloire. Ça c'est la vie chrétienne normale, hein ? Oui ou non ? Oui ou non ? C'est la vie chrétienne que Dieu veut pour son Église, pour ses enfants, n'est-ce pas ? Les actions de grâce. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce bon Père céleste qui sait de quoi nous avons besoin. Alors nous bannissons l'inquiétude. Nous nous nourrissons de tes promesses. Nous te prions de la prière de la foi. Et pour couronner l'ensemble, nous faisons perpétuellement monter vers toi nos actions de grâce. Merci, 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 merci. Alléluia. Les expressions de notre étonnement de ce si grand salut, on est sauvé, on ne sait pas trop pourquoi nous, mais on l'est, on le sait, nos noms sont écrits là-haut, gloire à Dieu, alors on le loue, on le bénit. Moi je suis d'accord avec l'apôtre Paul, pour tout ce qu'il a écrit, notamment, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est pas ça le plus important ? Nous sommes au Seigneur, alléluia. Alors on lui rend grâce en toutes circonstances et cela réjouit son cœur. Et quand le Seigneur est réjoui, sa joie retombe sur nous. Amen. Et c'est un cycle vertueux qui est enclenché de la sorte. On va prier le Seigneur quelques instants, mes bien-aimés. On va invoquer son nom. Oh.